Il est 8h41.
Le 7-9 sur France Inter.
Bonjour Jacques Lévy.
Bonjour.
Géographe, vous nous aidez à décrypter les résultats des élections après chaque scrutin important. C'était le cas après les deux tours de la présidentielle. On retrouve aussi à vos côtés le directeur d'Ipsos, Brice Teinturier. Brice, je reviens d'abord sur ce phénomène qui est celui de l'abstention. Voilà des semaines que vous nous annonciez avec votre institut Ipsos, une chambre bleu horizon ou violette, on ne sait pas quelle est la couleur exactement du mouvement de La République En Marche, en tout cas un raz-de-marée de ce mouvement dans la foulée de l'élection présidentielle, libre aux électeurs en quelque sorte de vous démentir éventuellement. Ils étaient libres d'aller aux urnes hier, ils ne l'ont pas fait, les sondages ont été largement confirmés, donc de la part de ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller voter, il y avait une volonté de laisser faire en quelque sorte.
Oui, je crois. Dans nos enquêtes, ce qu'on voit chez les abstentionnistes, c'est qu'il n'y en a que 9% qui disent qu'ils ne sont pas allés voter parce que les jeux étaient faits en faveur d'Emmanuel Macron.
Ah, seulement ?
Oui. Donc ce n'est pas ça le moteur de l'abstention. Je crois que c'est un mélange à la fois d'absence de soutien extrêmement puissant à La République En Marche, et il faut le dire, on voit bien que dans toutes les enquêtes aussi que nous avons réalisées juste avant le vote, il n'y avait en gros que 26-27% des électeurs qui nous disaient qu'ils allaient aller voter pour soutenir En Marche, donc ce n'est pas un moteur extrêmement puissant, mais il y en a une proportion extrêmement importante qui voulait, sans le soutenir, qu'il ait une majorité large ou absolue, et puis parmi les abstentionnistes, ils ont laissé faire le mouvement. Donc on n'a ni une lame de fond d'adhésion, ni une opposition. Je crois qu'au contraire, l'idée majeure, c'est maintenant on a un président, il faut lui donner sa chance, on va voir ce que cette nouvelle configuration peut donner et rendez-vous dans quelques mois avec un espoir ténu pour une majorité en tous les cas de Français que ça marcherait en tous les cas mieux que les différentes alternances. Donc il y a ce double mouvement. On laisse faire, on ne s'oppose pas à cette vague qu'effectivement on avait anticipée dans les simulations en siège. On n'avait pas anticipé, en revanche, faut le dire, une telle abstention, qui nous a tous surpris, même si on la voyait monter pas à ce point. Mais chez les abstentionnistes aussi, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'opposition à ce que cette vague se détermine comme elle avait été annoncée par nos enquêtes.
Ce qui nous surprend aussi depuis hier soir, c'est la force de l'étiquette. On n'est plus habitué à cela depuis des décennies où on voit des inconnus ou des quasi-inconnus défaire des caciques, des députés solidement implantés. Alors c'est particulièrement vrai au Parti Socialiste où on a une liste impressionnante de députés, d'anciens ministres. On peut en rappeler quelques-uns de tous âges d'ailleurs et qui ont eu tous les comportements aussi à l'égard du quinquennat de François Hollande, puisqu'on a à la fois des frondeurs et des fidèles qui ont suivi François Hollande et ses gouvernements jusqu'au bout. Donc, je rappelle Mathias Fekl, Pascal Boitard, Aurélie Filippetti, Christian Eckert, Jean-Christophe Cambadélis, François Lamy, Benoît Hamon, et puis chez les alliés, Cécile Duflot, Emmanuel Cosse, mais aussi Elisabeth Guigou, Razia Hamadi, Juliette Méadel, Karine Berger, Daniel Vaillant, bien d'autres. Hécatombe et jeunes massacres assez étonnant, Brice Teinturier.
Et à gauche et à droite. Et oui. Quand nous avions sorti notre simulation il y a 8 jours avec Le Monde, où on donnait déjà 400 sièges potentiellement pour En Marche, un des enseignements majeurs, c'est qu'il n'y avait pas de primo sortant, ou une très faible primo sortant, non seulement à gauche, mais là on voyait de toute façon qu'avec à peine 10% le PS était laminé, mais on le voyait également à droite. Et ça, c'était a priori plus surprenant. Dans les circonscriptions très à droite, très ancrées, voire très FN pouvant donner des réserves pour le second tour, eh bien en réalité il y avait peu de primo sortants. Et c'est très exactement ce qui s'est produit hier soir avec des candidats comme, je pense à des gens comme Éric Ciotti ou comme Éric Woerth.
Menacés dans les Alpes-Maritimes. Et Woerth dans l'Oise à Chantilly.
Tout à fait. Et un des enseignements, c'est que le très faible score du Front National ne favorise pas la droite LR. En réalité, on a là, et pour la première fois depuis longtemps, un Front National qui est stable par rapport à 2012, qui a beaucoup baissé par rapport à la présidentielle, et ça ne profite absolument pas à la droite LR. Pourquoi ? Parce que c'est La République En Marche qui attrape des deux côtés, et j'allais dire qui dévore tout sur son passage, en tous les cas qui lamine tous ses concurrents, tous ses adversaires.
Et Jacques Lévy, dans les premières cartes électorales de ce premier tour des législatives, qu'est-ce qui vous a frappé ?
Ce qui m'a frappé, c'est que il y avait des zones de force des partis qui étaient assez stables. C'est-à-dire, il y avait des circonscriptions où presque à toutes les élections, c'était particulièrement vrai pour la droite, mais aussi un peu pour le Parti socialiste, où on était sûr que ça allait être voilà, ce qu'on appelle des fiefs. Et donc c'était par exemple pour la droite toute la partie est et sud du bassin parisien. C'était bien sûr la Provence. C'était le nord de Rhône-Alpes Auvergne. Donc là, on voit qu'il y a une perte très spectaculaire. Et la même chose à gauche avec le Nord-Pas-de-Calais, on l'a dit, mais aussi tout ce rectangle, disons, du sud-ouest où le Parti Socialiste ne récupère pas du tout ce qu'il a perdu au premier tour. Donc on a cette capacité, avec des moyens relativement limités, comme Brice Teinturier vient de le dire, c'est-à-dire c'est pas une lame de fond au sens d'une mobilisation de masse, mais je crois que c'est Lao Tzu qui nous donne la clé. Voilà.
Grand politologue.
Ouais, grand politologue. En fait, Emmanuel Macron a utilisé un couteau taoïste, c'est-à-dire qu'il a découpé la viande sur la base d'une bonne connaissance de son anatomie et de sa physiologie. C'est-à-dire qu'en fait, il a décommunautariser la droite et la gauche, au sens où les gens disaient « je suis de gauche, donc je vote de gauche », avec aussi une résonance sociologique. Parfois, c'était « je suis ouvrier, donc je vote de gauche ouais. » ou « je suis bourgeois, donc je vote de droite ». Donc, il a réussi à découper à l'intérieur de cet univers qui semblait inoxydable et donc, en fait, de faire que l'Ouest parisien, justement, ce monde de la bourgeoisie classique, a quand même donné une majorité, enfin, c'est là où la droite classique résiste le mieux, hein, bien sûr. Mais quand même, elle résiste mal. Et donc, cette unification de l'Île-de-France que vous avez évoquée, elle est absolument spectaculaire. C'est-à-dire le fait que Macron gagne à la fois dans l'Est et dans l'Ouest.
À la fois, on disait tout à l'heure cet exemple, à la fois à Neuilly, face à Constance Le Grip, fidèle eurodéputée sarkozyste, à la fois dans le 16e arrondissement, face à un maire aussi solidement implanté que Claude Goasguen, qui est très menacé aujourd'hui, que à Montreuil, et Montreuil-Bagnolet, cette circonscription briguée par Alexis Corbière, où La République En Marche, la candidate, je crois, de La République En Marche, arrive en tête,
Paris, qui est
et dans le 19e, avec Mounir Majoubi, qui a éliminé Jean-Christophe Cambadélis.
S'il a réussi ça, à mon avis, c'est parce que il a su écouter. Hein, le couteau taoïste, c'était justement pas forcément de regarder, mais d'écouter les lignes de clivage que les Français, qu'ils soient d'accord ou pas avec lui, avaient envie de voir émerger. Et donc, ce qu'on voit là où la droite résiste le mieux, c'est dans les zones les plus archaïques, c'est-à-dire le sud-est du Massif central, le Cantal, la Haute-Loire, donc des endroits où il y a très peu d'habitants et où là, on a une couche très très ancienne, mais sans perspective. Qui montre une meilleure résistance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on aurait pu imaginer que cette abstention différentielle profite quand même aux autres recomposeurs, si on peut dire, que sont le Front National et la France Insoumise. Parce que eux n'avaient pas de raison, en fait, sur le papier, de s'abstenir. Ils pouvaient considérer qu'ils allaient renforcer une vraie opposition. Et en fait, là, on voit apparaître quelque chose de très intéressant, qui est que les tribuniciens d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'autrefois. C'est-à-dire, par certains côtés, la France Insoumise ressemble au Parti communiste des années 70-80, mais pas complètement, parce que dans la fidélité communiste, il y avait une temporalité indéterminé qui faisait que on était fidèle parce que un jour on gagnerait. Or les tribuniciens d'aujourd'hui, qu'ils soient Front National ou France Insoumise, quand ils ne gagnent pas, ça les déprime. Et du coup, ils ont du mal à garder leur mobilisation. Et donc c'est quand même assez impressionnant de voir que Jean-Luc Mélenchon, sauf exception, a perdu la moitié de ses voix, y compris là où il était fort.
C'est plus de la moitié, puisqu'on est à 2,5 millions à peu
voilà,
près.
La moitié
contre,
de ses points,
millions,
même là où il était fort. Alors que par exemple, les écologistes font un score assez bon, hein, ils font plus de 4% alors qu'ils étaient quasiment invisibles. Et donc on voit bien qu'une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont détournés. Donc il y a à la fois l'électorat populaire qui, ne voyant pas de débouchés clairs, va se réfugier dans l'abstention, mais il y a aussi une partie de l'électorat urbain de Jean-Luc Mélenchon qui va choisir d'autres pistes pour rénover la vie politique.
Brice Teinturier.
Oui, mais ce que je trouve très frappant, c'est que en réalité, tout s'est joué au moment de la composition du gouvernement. C'est là où la mécanique d'Emmanuel Macron, elle s'est mise en place, avec un Premier ministre issu des rangs de la droite et qui donc séduisait une partie de la droite. Et je rappelle que 21% des électeurs de François Fillon du premier tour de la présidentielle ont voté hier pour un candidat de La République En Marche. Et puis en même temps, avec d'anciens ministres aussi du gouvernement Hollande et un positionnement qui allait aussi sur le centre-gauche, et là, ça permet au second tour de recapter des voix du centre-gauche. Donc il y a la demande de renouvellement, ouais. Mais il y a surtout le positionnement central qui, à chaque fois que la REM est qualifiée pour le second tour, lui assure des reports assez massifs.
Mais comment se fait-il, pour rebondir sur ce que disait Jacques Lévy, que ça ait coupé les pattes à la fois des électeurs de Marine Le Pen et de ceux de Jean-Luc Mélenchon
Mais les électeurs de Marine Le Pen, ils se sont démobilisés massivement.
On a 56%, vous avez dit, tout à fait, hier soir, des électeurs de Marine Le Pen sont abstenus.
Oui. Et là, on voit quelque chose quand même qui est lié à la dynamique négative de l'entre-deux-tours. Le débat de Marine Le Pen a continué à produire des effets. Il a produit des effets pour le second tour de l'élection présidentielle, mais la déception est allée au-delà. Quand vous y ajoutez ensuite une mécanique qui est un vote de confirmation et d'amplification du résultat de la présidentielle, eh bien vous avez un électorat affrontiste qui, en réalité, s'est totalement décomposé. Et c'est très impressionnant. On passe de plus de 10 millions au second tour de la présidentielle à peine plus de 3 millions aujourd'hui. Donc l'effet d'évaporation, il est massif. Il joue aussi malgré tout pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'on a également une baisse qui est forte avec un électorat jeune qui avait nourri la dynamique du premier tour de Jean-Luc Mélenchon et qui s'est abstenu là aussi massivement. Donc les effets de la démobilisation ont percuté prioritairement le Front National puis la France insoumise, mais également, encore une fois, une partie de l'électorat de droite traditionnel qui d'habitude participe massivement et là qui s'est abstenu à hauteur de 38% pour des électeurs de François Fillon. C'est quelque chose d'assez nouveau. 38% qui restent à la maison et sur ceux qui y vont, 21% qui votent pour La République En Marche. C'est ce qui explique aussi la dynamique ensuite
et des électeurs âgés qui d'habitude se et rendent massivement, beaucoup plus massivement.
Tout à fait. Et l'électorat âgé, en fait, a voté autant pour La République En Marche que pour les candidats LR, ce qui là aussi une vraie révolution. On disait que le vote âgé était et nourrissait la stabilité du vote bien conservateur. Sûr. On voit que les électeurs âgés peuvent changer également de candidat et évoluer dans leur vote.
Tout arrive. Thomas Legouin.
Oui, on oublie de commenter, je trouve, l'aspect politique, le message du corps électoral, parce qu'on disait que la France était déprimée, décliniste, que les conservateurs avaient gagné la bataille culturelle. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que vous notez un renversement de l'état psychologique de la France ou pas ?
Non, on ne note pas un renversement, il ne faudrait pas aller trop vite en besogne non plus. Ce qu'on note, c'est une espèce d'espoir, d'envie d'y croire, qui n'est pas massif, mais qui consiste à dire « on va leur laisser une chance ». A priori, tout cela est quand même un peu différent et correspond à ce qu'on souhaitait pour une majorité de Français depuis longtemps, c'est-à-dire sortir du clivage perçu comme souvent artificiel entre la gauche et la droite. Il y a un surcroît d'optimisme, mais il n'y a pas non plus une inversion totale des tendances. On ne passe pas des ténèbres aux lumières.
Merci Brice Teinturier, merci Jacques Lévy. Bonjour Jérôme Fenoglio.
Bonjour.
Directeur du journal Le Monde, est-ce que vous avez une idée de la physionomie du journal qui sera en ligne dans quelques heures et dans les kiosques dans l'après-midi sans doute ?
Ouais, il sera dans les kiosques en début d'après-midi et disponible sur Internet vers midi. Oui, j'ai une idée assez précise parce qu'on est en train de le boucler en fait, on est en bouclage avancé, tout le monde a travaillé toute la nuit. Nous allons titrer sur le fait que Macron est sans opposition. Macron sans opposition, ce sera le premier des titres d'une manchette à double détente. D'abord, c'est Macron sans opposition, ben c'est pour dire effectivement, comme les commentateurs l'ont expliqué, que ben, il n'a pas rencontré d'obstacles, à la fois lui personnellement pour la présidentielle, et maintenant son parti a eu une ascension tout aussi fulgurante que celle qu'il a connue, puisque en 16 mois il est passé de rien, d'un parti qui n'existait pas aujourd'hui, à une majorité absolue qui s'annonce assez écrasante.
Est-ce que cette absence d'opposition inquiète les éditorialistes ou les commentateurs de votre journal ?
Ce qui est inquiétant, et c'est le titre à double sens que nous avons fait, c'est que juste en dessous, on peut lire aussi qu'il y a une abstention record. Et nous avons mis en une un graphique, ce qu'on appelle un camembert, qui montre la répartition des votes en pourcentage des inscrits. D'habitude, on met seulement les exprimés. Et donc, on voit que la grosse moitié de ce camembert est mangée par donc cette abstention, qui est extrêmement forte et qui réduit, en fait, quand on prend ces pourcentages-là, La République en Marche à peine 15% des inscrits. C'est-à-dire
Une expression
qui est quand même beaucoup plus faible que ce que laisse penser la carte que nous publions aussi, et qui, elle, est toute jaune. Chez nous, La République en Marche est en jaune, et là, pour le coup, on a une carte quasiment intégralement jaune, alors que le parti, avec le modèle, ne représente que 15% des inscrits. Donc il y a là une fragilité, un risque, une mise en doute qui va arriver sans doute sur la légitimité de ce scrutin, et dont il faudra tenir compte si la semaine prochaine, cette majorité absolue très très large est confirmée, avec cette volonté de renouveau qui est celle d'Emmanuel Macron. Il faudra tenir compte aussi du fait que le parti ne représente pas, et de très loin, une majorité de Français.
Le Monde en kiosque dans les prochaines heures avec l'indispensable cahier des résultats sur lesquels, je sais, beaucoup de vos journalistes ont travaillé une partie de la nuit. Merci Jérôme Fenoglio. Dans un instant, le retour de Sophia Ram.